Bonjour, nous allons commencer notre deuxième section, notre chapitre 2, le cadre protecteur de la musique. Quand on y pense vraiment, toute chose a un cadre dans lequel il fonctionne. L'homme a un cadre de conduite donné par Dieu. Les anges ont un cadre aussi, tout comme les démons ont un cadre de conduite dans lequel ils doivent fonctionner. Ils doivent demander la permission de Dieu de faire certaines choses. Allons un peu plus loin dans cette pensée, nous réalisons que même Dieu a un certain cadre de conduite. Il n'y a pas de personne au-dessus de lui pour déterminer ce cadre. Plutôt, il le détermine lui-même. Alors, de quel cadre est-ce que je parle, puisque nous savons qu'il peut tout faire, il est partout, il sait tout, il est infini, éternel, etc. Il n'a aucune limite. Eh bien, je parle du cadre de ne pas pouvoir pécher, par exemple, de ne pas pouvoir contredire sa parole et ses promesses, de ne pas pouvoir sauver autre que par le nom de Jésus-Christ, etc. Il ne peut que faire le bien, et c'est ça sa limite. Alors oui, quand on y pense, toute chose a un certain cadre de conduite. La musique de même a un certain cadre naturel incorporé en elle. Mais depuis que l'homme a chuté, bien des choses sont sorties de leur cadre naturel. Le sexe, la soumission à l'autorité, les rôles dans les foyers, l'utilisation des plantes pour la drogue, etc. La musique aussi a souvent été déviée de son cadre naturel. Le mot « cadre » de nos jours a pris une certaine mauvaise connotation, surtout avec la crise de soumission à l'autorité qu'on voit souvent. Mais il n'en est rien de cela. Quand je parle de cadre, ce n'est pas au sens d'une prison, mais plutôt d'un cadre protecteur des dangers de l'extérieur, tout comme l'indique le titre. Tout comme en général une cour d'école en généralement un grillage, non pour emprisonner les enfants, mais pour les protéger de la rue et des autos. Une musique qui est dans son cadre naturel est protégée de la corruption et de la destruction du malin. Nous allons regarder à quelques principes qui vont nous donner qui vont nous aider à comprendre dans quel cadre la bonne musique se retrouve selon la parole de Dieu et selon les lois musicales. Ils sont une fonction appropriée, une priorité appropriée, un bon reflet de la saine doctrine. Ensuite, nous parlerons d'une manière plus pratique de la musique. On observera les caractéristiques du chant nouveau et celles du chant des insensés, celles qui sortent du cadre naturel de la musique. Peut-être il faut souligner ici que cette partie est assez vague, puisqu'elle a comme but de donner une bonne philosophie biblique de la musique. Dans la troisième partie, nous parlerons moins philosophie et plus pratique. Mais cette section est très importante, car si je n'enseignerais que la section pratique, vous ne comprendriez pas le pourquoi de cette pratique. Ainsi, un des principes du cadre protecteur de la musique est la fonction appropriée de la musique. On va premièrement parler de toute musique en général, qu'elle soit séculière, chrétienne. Toute musique que nous choisissons d'écouter, que cela soit pour l'appréciation personnelle ou pour un culte à Dieu, que ce soit à l'église comme à la maison ou dans l'auto comme dans notre lit le soir, etc., toute musique doit être à la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10:31 dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Mais qu'est-ce que cela veut dire en termes pratiques d'être à la gloire de Dieu? Bonne question. Rendre gloire veut tout simplement dire rendre honneur à, ou encore rendre une bonne image de. Un sens du mot grec « doxa », qui veut dire « gloire », est le mot « reflet », c'est-à-dire que de glorifier implique bien refléter la personne que l'on glorifie. Comment est-ce que la musique que nous écoutons peut bien refléter Dieu? Bonne question. Voyons d'abord comment se décrit notre Dieu dans sa parole. Dieu est saint. Isaïe 6:3, saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. En Pierre 1:16, vous serez saints car je suis saint. Et Apocalypse 4:8, saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Dieu est trois fois saint. Dans les langues hébreu et grec, une manière de mettre en emphase quelque chose était de le répéter plusieurs fois. C'est pourquoi, par exemple, Christ disait souvent « en vérité, je vous le dis ». Mais rares dans la Bible sont les choses répétées jusqu'à trois fois. Et Dieu est dit d'être saint, saint, saint. Ainsi, notre musique doit refléter la sainteté de Dieu. Elle doit être exempte de toute débauche, de perversité, de toute mauvaise association. Dieu est lumière. 1 Jean 1:5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. La musique doit refléter que Dieu est lumière. Elle ne doit pas être caractérisée par des compromis. Dieu est amour. 1 Jean 4:6, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4:16, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Il y avait un temps où je me tracassais la tête de savoir comment il est possible pour une musique de refléter que Dieu est amour. Éphésiens 4:16 a répondu à ma question. Ça dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Et j'ai compris que le vrai amour, ça édifie. La vérité, ça sanctifie, et l'amour, elle édifie. Dans ce sens, la musique doit être édifiante pour bien refléter le caractère de Dieu. Dieu est ordonné. 1 Corinthiens 14:33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. La musique doit être ordonnée suivant les règles de musique pour glorifier et bien refléter Dieu. Dieu est esprit. Jean 4, 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La musique ne doit pas être charnelle, et doit parler à notre homme spirituel, et non pas à notre vieille nature. Une musique charnelle reflète l'homme dépourvu et rebelle à Dieu. Une musique d'une nature spirituelle reflète Dieu et le spirituel. Dieu est vérité. Jean 14:6. Jésus lui dit, « Je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Avec la musique purement instrumentale, on peut promulguer le mensonge. Une musique qui est vague, sans absolu et dont les notes ne sont pas claires, enseigne à long terme la relativité et à l'opposition de la vérité absolue. La musique doit refléter les vérités de Dieu. Aussi, rappelons-nous que la musique est déterminante pour l'enchaînement de nos pensées et par conséquent étant commandée de renouveler notre pensée en Christ et aussi d'être de plus en plus à l'image de Christ, la musique se doit de refléter non pas le monde, mais Christ. Maintenant, nous allons parler plus précisément de la fonction de la musique sacrée, ou dite par utilisation chrétienne, par opposition à une musique instrumentale écrite par un inconverti. La première fonction est, à mon avis, évidente, la louange. Maintes fois, il est répété et souligné dans les Écritures de louer Dieu au son de la musique. Aussi, c'est probablement le commandement le plus répété de la Bible. Remarquez combien de fois il est commandé dans chanter à Dieu. Il y a un verset, entre autres, que j'aimerais souligner, Exode 15:11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange? Ce terme en hébreu inclut l'idée de chanter dans la louange. Littéralement, Dieu est digne de louange chantée. Et c'est tellement vrai. On peut louer Dieu pour ses œuvres, par exemple, comme dans le psaume 78, où Asaph raconte œuvre après œuvre que Dieu a fait. Aussi, on peut louer Dieu pour ses attributs, comme dans le psaume 93. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint, de force. Aussi, à ne pas manquer, et de remarquer que tout à travers la Bible, en général, il est répété de chanter à Dieu. Cette expression revient sans cesse. À Dieu, chanter à Dieu. Dans la louange, il n'est qu'à propos. Notons tout de suite que de chanter à Dieu ne veut pas nécessairement dire de s'adresser toujours à Dieu dans la deuxième personne du singulier. Les psalmistes, par exemple, louaient Dieu souvent aux troisième personne du singulier. Par exemple, le psaume 147 se lit ainsi. Car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Alors, il chantait à Dieu, mais tout en parlant de lui à la troisième personne du singulier. Donc, rappelons-nous que l'on chante à Dieu. Une deuxième fonction de la musique dite sacrée et l'instruction ou l'édification. Un exemple de psaume pour l'instruction et l'exhortation est le psaume 37. Ne tirez pas contre le méchant, n'enviez pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Deux passages clés se retrouvent dans les épîtres de Paul. Le premier, Colossiens 3:16, dit « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » C'est clair par ce verset qu'une fonction importante de notre musique est de nous exhorter et instruire dans la vérité. Aussi, il y a un lien très fort entre la parole de Christ et la musique. Paul nous ordonne d'être imbibés de la parole et nous en donne le moyen. En nous instruisant et nous exhortant en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Quand on se fait dire que Dieu n'a pas grand-chose à dire sur la musique qu'on écoute, c'est complètement faux. Dieu, par la bouche de son apôtre Paul, ordonne tout simplement « Entretenez-vous avec de la bonne musique spirituelle, des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Ainsi, vous serez imbibés par la parole. » Par conséquent, il est absolument nécessaire de s'assurer que nos chants et nos cantiques soient absolument 100% biblique et non portant à la confusion. car on se rappelle bien plus longtemps les chants que l'on chante que les prédications qu'on entend. Un exemple de cela se trouve dans Deutéronome au chapitre 31. Dieu dit à Moïse d'apprendre à son peuple un chant pour qu'il s'en rappelle des générations après. Une observation intéressante est que Moïse venait tout juste de leur avoir apporté une prédication, une longue prédication. Elle est rapportée dans les chapitres précédents, toutes Deutéronome quasiment, et sa prédication. Sachant que son peuple ne se souviendrait pas longtemps de cette prédication, Dieu dit à Moïse de leur enseigner un cantique. Il dit en Deutéronome 31, 19 à 21, « Maintenant, écrivez ce cantique. Enseignez-le aux enfants d'Israël. Mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera. Puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans leur bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. » Martin Luther reconnaissait bien cela. C'est pourquoi il écrivait maints chants et cantiques qui étaient des expositions pures et nettes de doctrines très profondes de la Bible, parce qu'il voulait que les chrétiens de son temps apprennent les bonnes doctrines de la parole de Dieu. Et des catholiques de son temps lui ont rendu ce témoignage. Martin Luther a fait plus de dommages par ses cantiques que par ses prédications. Tout un témoignage. Pourrait-on en dire autant de notre génération? Fait-on plus de dommages à l'inconverti par nos cantiques d'aujourd'hui? C'est une dure question. Ainsi, puisque les cantiques restent tellement engravés dans notre mémoire, fois après fois qu'on les chante, prenons le temps de lire les paroles, de les scruter, de les examiner à fond pour nous assurer que les cantiques qu'on aime chanter soient profonds spirituellement, qu'ils enseignent vraiment quelque chose et qu'ils ne soient pas simplement des paroles lancées en l'air. Testons nos chants et nos cantiques de façon à ce que notre pasteur puisse les prendre comme sa base de prédication les dimanches matins. Pour être certain que une musique soit bonne, hein, les paroles sont bonnes, si le pasteur est capable de les prêcher et que toute la foule, toute l'assemblée dise « Amen » à ce qu'il dit, « Ah, le cantique est bon. » Mais si c'est douteux, ça va bien ressortir dans une prédication que dans un chant. Parce qu'on porte bien plus attention lorsqu'on entend une prédication et le pasteur dit « Voici ce que dit Dieu. » On fait bien plus attention à ce moment-là que quand on chante. Et souvent, les gens, ils chantent à moitié là et donc, ils ne pensent pas à ce qu'ils chantent. Donc, pour vérifier, ce serait simplement de donner un cantique à un pasteur et dire « Serais-tu capable de prêcher cela ?» En s'y arrêtant pour y penser, il y aurait peut-être bien des chants qu'on mettrait de côté, des chants même tellement entraînants, mais qui sont en soi vides en valeur d'enseignement. Une chose à faire attention à ce moment, c'est que les pentecôtistes charismatiques composent beaucoup de chants, et que ces chants rentrent facilement dans nos milieux. Et il ne faut pas être naïf. Quand cela se produit, ce n'est pas seulement leurs chants qui s'introduisent, mais leur doctrine tordue, leur philosophie, leurs mensonges subtils. Un petit chant entraînant peut avoir l'air assez innocent, mais ça va graver la mémoire et enseigner bien plus que n'importe quel exposé de 3 heures. Vous voudriez peut-être un exemple d'un petit chant ou d'un compositeur. Un compositeur justement pentecôtiste, un leader pentecôtiste même, est nommé Ralph Carmichael. Et ce compositeur a comme philosophie l'empirisme, c'est-à-dire qu'il faut expérimenter quelque chose pour en connaître la vérité. Autrement dit, il n'y a pas de vérité absolue, juste des faits objectifs n'ont aucun sens en soi s'ils ne sont pas expérimentés. Et là, on se tourne vers un relativisme quant à notre expérience. Et c'est par notre expérience qu'on va découvrir la vérité, plutôt que par la parole de Dieu. Ça, c'est une philosophie typiquement charismatique. Remarquez comment cette philosophie va ressortir dans ces chants qu'il a composés. Un de ces chants, entre autres, et j'hésite de le dire parce qu'on le chante si souvent, mais il faut bien que je reparle un peu. La nature parle d'un créateur. Il est tout pour moi, ce chant-là. Et on va remarquer que sa philosophie, qu'il faut expérimenter avant de le connaître, c'est ça va ressortir à travers du chant. Il dit au début de son chant, « La nature parle d'un créateur, et le vent murmure sa grandeur. Mais si on me parle d'un sauveur, qu'est-ce donc pour moi ?» Autrement dit, ces faits objectifs n'ont aucun sens pour lui. Encore, il dit, « Il y a longtemps en Galilée, on me dit qu'un sauveur nous est né. S'il est venu pour nous racheter, qu'est-ce donc pour moi ?» Ah, je ne comprends pas ce petit sens. Ce que la parole de Dieu affirme d'une manière objective n'a aucun sens pour lui. Il ne peut pas comprendre, il ne peut pas l'accepter tant qu'il ne l'expérimente pas. Et ça, ça va se refléter parce qu'il dit, « Puis un jour, je le vis face à face. Je goûtais la douceur de sa grâce. » Et là, ça révèle que lui, c'est l'expérience qui compte pour lui. Ça, c'est gravement non-biblique. C'est subtil, oui, parce que il faut connaître Dieu plus qu'intellectuellement. Croire, les démons croient aussi, et ils tremblent. Il y a ce côté-là. Mais jamais, jamais, est-ce que l'expérience va déterminer la vérité. C'est la parole qui doit nous suffire. Et si la parole nous dit que Dieu est créateur, on doit s'en prendre au mot. On ne doit pas attendre d'expérimenter quelque chose avant de croire et de se reposer sur cette vérité et de le prendre pour nous-mêmes. Aussi, je sais que ce chant a beaucoup béni certains jeunes, certaines personnes, parce qu'ils ont été touchés en comprenant que Dieu est un Dieu personnel, non artificiel. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Mais, à y penser, est-ce que ce chant porte à confusion? Quand ce chant est chanté dans les milieux charismatiques, ils le chantent parce qu'ils savent que ça révèle un empirisme qu'il faut expérimenter, qu'il faut connaître par l'expérience. Et est-ce que quand on le chante, est-ce que ça ne va pas nous affecter ou affecter notre prochaine génération, nos enfants qui grandissent chantant ces choses-là? Est-ce qu'ils ne vont pas avoir un petit peu de philosophie qu'il faut expérimenter quelque chose? Quand ils se font dire, quand la Bible dit qu'il y a un sauveur, qu'est-ce donc pour toi? Faut que tu le connaisses, faut que tu le goûtes. Bref, je vous laisse répondre à ces dures questions. Peut-être, pour répondre à cette question, vous pouvez simplement demander à votre pasteur de prêcher sur Cantique un dimanche matin pour voir si le monde ne réagirait pas à telle philosophie. Je n'ai soulevé cet exemple que pour vous porter à réfléchir sur ce qu'on chante constamment. Mon désir n'était pas de créer une dizaine en soulevant ce chant si populaire, mais de plutôt vous faire réaliser, ou de réaliser mon auditoire, que ces choses nous touchent de près et qu'il faut être sur nos gardes pour la cause de la vérité. Le deuxième passage clé du Nouveau Testament est Éphésiens 5, 18 à 19. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire rempli de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Juste en passant, littéralement, la fin de ce verset devrait être ou est chantant et faisant une mélodie dans votre cœur au Seigneur. Du terme psalmos, mélodie. On peut comprendre par extension louange. Ici, le lien n'est plus avec la parole, mais avec l'esprit. Soyez remplis de l'esprit. Comment? Entretenez-vous avec des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. En faisant ce lien comme ça, je ne fais aucunement tort au texte grec, car littéralement, le verset pourrait se lire « Soyez au contraire remplis de l'esprit, vous entretenant par des psaumes, avec des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. » On remarque qu'une personne qui aime chanter de tout son cœur est une personne qui est remplie de l'esprit. Ou plutôt le contraire, une personne qui est remplie de l'esprit va aimer chanter de tout son cœur. Je peux honnêtement témoigner qu'il y avait bien temps que je n'aimais pas chanter. Je n'aimais vraiment pas chanter. Mes parents pourraient en témoigner. Mais au fur et à mesure que Dieu travaillait en moi par sa grâce et qu'il m'a saisi, j'aime de plus en plus chanter les cantiques. Et maintenant, mon deuxième livre préféré est mon livre de cantiques après la Bible. Et ça, c'est seulement par sa grâce, parce que je n'étais pas comme ça avant. Peut-être vous demandez-vous, mais qu'entend Paul par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels? Qu'est-ce qu'il avait en tête? Alors, il est généralement compris que les psaumes ne se référaient pas uniquement au livre de psaumes de l'Ancien Testament, mais de tout passage qui est sur mélodie, ou tout chant qui suit un peu la forme d'un psaume. À l'origine, un psaume signifiait un chant accompagné par instrument à cordes. Par hymne, on comprend les chants d'adoration et de louange. Il est soutenu que les hymnes étaient les chants de louange des chrétiens depuis la venue de Christ. Ils ajoutaient l'adoration spéciale à l'agneau, le Christ, chose qu'il n'y avait pas avec les psaumes. Pour les cantiques spirituels, l'emphase ne serait plus vraiment sur l'adoration en tant que telle, mais sur toutes les diverses expériences en Jésus-Christ. Un petit cantique spirituel qui me vient en tête, c'est « J'ai connu Jésus au jour merveilleux, jour à ne pas oublier. » Ça, c'est un cantique spirituel, un exemple. Ces cantiques servent à l'édification et à l'exhortation. Le terme « spirituel » pourrait s'appliquer grammaticalement à tous les trois termes, psaume, hymne et chant. Dans tous les cas, il s'applique au moins à nos chants. Il démontre le besoin que nos chants soient non charnels, et non d'après les rudiments du monde, mais plutôt caractérisés par l'esprit, sous le contrôle de l'esprit, parce qu'il faut se rappeler que le but de chanter ces psaumes, ces hymnes et ces cantiques spirituels, et au verset 18, d'être rempli du Saint-Esprit. Ainsi, nos chants ne doivent pas satisfaire notre chair, mais faire mourir la chair afin de renouveler notre esprit. Ici, aussi comme pour la louange, j'aimerais vous faire remarquer que dans ces passages clés que nous avons regardés, Paul répète qu'on doit chanter à Dieu. Notre premier passage littéralement dit « Faisant une mélodie dans votre cœur, ô Seigneur. » Et notre deuxième, « Chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. » Comme pour la louange, on peut chanter à Dieu, à la troisième personne du singulier, et nous exhorter mutuellement face à lui, tout en gardant en tête que c'est à lui qu'on chante. Comme troisième fonction de la musique dite sacrée, nous retrouvons l'évangélisation. Il faut dire tout de suite qu'il n'y a aucun passage dans la Bible qui invite les chrétiens à chanter expressément aux non-chrétiens dans le but de les attirer à Christ. Vous pourrez vérifier. Ceci dit, il y a quand même au moins deux passages où le salut des âmes est arrivé suite à des chants. Acte 16 est notre premier exemple. Au verset 25, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. » Remarquez bien qu'ils chantaient des louanges de Dieu, et que dans un sens, on ne parle aucunement de chant d'évaluation. Mais on observe quand même que leur chant était un témoignage à tous les prisonniers. On sait aussi que le geôlier s'est converti quelques moments après, suite au tremblement de terre. Alors on peut arriver à cette conclusion. Ce verset révèle que l'évangélisation musicale de Paul s'est faite par la louange. De notre deuxième passage, Psaume 40, versets 1 à 4, dit « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. » Et peut-être une petite pause, littéralement, la fosse de destruction, c'est littéralement la fosse de son chaotique, d'un bruit qui est destructeur. Et il a dressé mes pieds sur le roc et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Alors le passage est clair. On parle d'un chant nouveau qui est une louange à Dieu. Qu'est-ce que cela a produit? De la crainte. Une vraie musique d'évangélisation. Si on en veut une, elle révèle Dieu dans sa sainteté, dans sa grandeur, dans sa majesté, et ça produit de la crainte dans ceux qui l'entendent. Et à ce sujet, est-ce que notre musique produit de la crainte en nous, premièrement, ou aux inconvertis? Pourquoi est-ce que ça devrait produire de la crainte? Parce qu'en chantant à Dieu, notre musique n'est pas centrée sur l'homme et ses besoins, mais sur Dieu et ses attributs. Aussi, on a passé tout droit au-dessus d'un détail très intéressant du texte. Il dit « Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. » Avez-vous déjà regardé un chrétien chanter, mais comme à moitié cœur, sans volonté, sans joie de le faire, avec les pensées ailleurs? Ça ne rend aucunement témoignage pour notre Dieu. Plutôt, ça rend témoignage contre Dieu. Comme si c'était, excusez l'expression, plate de lui chanter des louanges. À lui qui en est tellement digne pour tout ce qu'il a fait. Alors, quand on chante d'une manière joyeuse, là, les chrétiens, les non-chrétiens vont dire, « Ah, voici un chrétien, et il est content de l'être. Il est content d'être différent de nous. » Je me demande, qu'est-ce qu'il a de plus que nous? Alors, la manière qu'on chante communique beaucoup. Parce qu'il dit, « Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. » C'est à se demander, est-ce que le monde aurait de la crainte à nous voir chanter dans notre église? Alors, sinon, il faut prier pour un réveil. Encore et toujours, on chante à Dieu. Oui, on peut avoir des chants d'invitation, des chants d'évangélisation même, des appels, certainement. Mais toujours en gardant en mémoire que notre premier auditeur est notre Dieu. D'ailleurs, probablement, le meilleur chant d'évangélisation est un chant de louange qui élève Dieu. Tout comme le meilleur chant d'instruction et d'exhortation est un chant de louange quasiment, puisqu'on s'instruit sur l'être le plus merveilleux possible, Dieu lui-même. Alors en chantant des louanges, on s'instruit, on s'exhorte et on évangélise dans un sens. Je ne dis pas que on doit simplement chanter des louanges, non. On peut aussi chanter des chants d'exhortation, chercher d'abord le royaume de Dieu, par exemple, etc. Mais voyez, si on suit bien ce principe, de chanter à Dieu. Ça va nous protéger de recourir à la musique du monde pour essayer de les attirer avec la musique. Ça va nous éviter de tels problèmes. Malheureusement, on n'a que trop vu cela se produire dans ces dernières générations. On veut utiliser la musique pour évangélisation, et alors on va utiliser la musique du monde, qu'ils aiment, c'est normal, pour les attirer. Parce que si on utilise une musique d'évangélisation qui est plate, dans le but explicite de les attirer, ils ne vont pas être attirés. Alors il faut utiliser leur musique. Là est le problème de cette philosophie. Pourquoi vouloir changer les moyens de Dieu? Quel est son moyen d'évangélisation? Quel est son moyen pour évangéliser? 1 Corinthiens 1:21 nous donne la réponse. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il dit bien la folie de la prédication, la prêcher. Et il continue, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Il dit par la folie de la prédication, Dieu n'a pas besoin qu'on lui prêche. Mais la musique est pour lui. Dieu aime qu'on chante à lui. Il n'a pas besoin qu'on lui prêche. Il est musical. Il commande tant de fois dans sa parole que son peuple doit le célébrer par chant. Il veut que la musique soit pour lui et la prédication pour les hommes. Alors ne changeons pas cela, mes frères. Ne gaspillons pas notre salive à chanter pour attirer les inconvertis. Chantons à Dieu. S'ils l'entendent, amen. Chantons à Dieu et prêchons aux hommes. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aller dans un parc et chanter des cantiques ensemble et ensuite apporter une petite prédication au monde. Non. Parce qu'en faisant cela, de toute manière, on chante des cantiques qu'on chante à l'église, en général. Si vous allez dans un parc et vous chantez toute une autre strophe de chants que vous ne pouvez même pas chanter entre vous, parce que c'est des chants explicitement pour attirer les inconvertis, là, il y a un problème. Mais si nous allons dans un parc pour chanter des cantiques que nous chanterions même s'il n'y avait pas des inconvertis, je ne vois aucun problème à utiliser ce méthode. Quelle est donc la fonction de la musique? Jean-Sébastien Bach l'a tellement bien dit quand il a dit « Pour la gloire seule, du Dieu très haut, et pour mon voisin qu'il en apprenne. » Il a bien dit ça. La musique est donc pour Dieu, premièrement.